Radio, cité Genève.
Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherova, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch.
Les flocons ont la forme de flèches, de lunes, de couronnes, de losanges, et on trouve même une main avec 5 doigts. Ces flocons n'existent pas, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Les Romains ont probablement été surpris d'apprendre que ce genre de choses bizarres pouvaient tomber du ciel. L'ont-ils cru ? Citation que je viens de lire en page 15 du tout nouvel ouvrage de Étienne Kiss, « La petite histoire des flocons de neige » aux éditions Odile Jacob 2021, un opus tout à fait intéressant, basé sur évidemment l'axe professionnel de l'auteur qui est mathématicien, mais qui offre une histoire à la fois des savants qui se sont intéressés au phénomène du flocon de neige, à l'art, au dessin du flocon de neige et à la constitution même de comment se fait un flocon de neige. Alors en introduction, l'auteur nous explique, l'auteur qu'on a le plaisir d'avoir en ligne au Radio Littéractif et à Radio Cité Genève, l'auteur nous explique effectivement comment est né le projet de cet ouvrage et la citation que je viens de lire est tirée notamment d'un des tout premiers, probablement au 15e siècle, personnage qui s'est intéressé à dessiner les flocons de neige avec une maladresse crasse, bien entendu, Olaf Monson, l'homme du Nord, 1490-1557. Et j'ai envie de demander à notre auteur et à notre scientifique, qui est mathématicien mais chercheur aussi au CNRS, comment a démarré cette passion quelque part pour le flocon de neige ? Comment vous êtes arrivé à cet ouvrage ?
Eh bien, je suis arrivé d'une manière un peu étonnante. Je travaille à l'Académie des sciences à Paris et l'Académie héberge une fondation qui s'appelle La main à la pâte qui propose d'aider les enseignants d'école primaire à mieux enseigner les sciences. Et une fois par an, l'Académie des sciences remet des prix et ce sont des prix qui sont remis à des classes, c'est des classes d'école primaire. Et alors ce jour-là, les salons qui sont d'habitude feutrés et remplis de scientifiques ou d'académiciens plutôt vieillissants, mais ce jour-là, c'est des gamins d'école primaire qui courent dans les couloirs, qui s'assiedent et qui choisissent les fauteuils verts, etc. Et on leur offre une conférence scientifique. Et puis, il y a 3 ans, j'ai été invité à faire une conf devant des gamins d'école primaire. Et moi, j'étais assez... un peu angoissé à dire vrai, puisque j'ai souvent fait des conférences pour des spécialistes, parfois pour des lycéens, mais pour des enfants d'école primaire, c'était pour moi un vrai défi. Alors je me suis lancé là-dedans, j'ai dit tiens, je vais leur parler de flocons. Et j'ai eu d'abord une chance extraordinaire, c'est que le jour où j'ai parlé de flocons de neige à l'Académie des sciences, le jour où la neige s'est mise à tomber sur Paris.
Ah, c'est magique.
Les enfants sont souvent excités quand il neige, et les enfants étaient surexcités dans la salle. Chaque fois que je montrais, que je projetais des flocons de neige sur un écran, et dans mon petit bouquin, il y a des images magnifiques, il y a des photos absolument superbes, j'entendais les enfants qui faisaient « Oh, ah, oh !» J'ai été tellement satisfait, non pas de ma conférence, mais tellement satisfait de la réaction des enfants, qu'en sortant de là, je me suis dit, il faut que j'en sache plus, et je tiens là une espèce de petite piste de thème scientifique qui peut plaire à tout le monde. Voilà le début de ma petite histoire.
Une magnifique accroche, c'est magique, c'est presque digne du conte, alors que c'est de la science, justement. Mais on va voir, dans votre ouvrage, d'ailleurs, ça aussi, entre... on pourrait dire recherche scientifique et compilation extrêmement bien documentée, savamment illustrée par ailleurs, mais aussi cette touche de fascination de l'être humain par rapport aux flocons de neige. Alors, on a d'abord un répertoire de tous les scientifiques, voire les philosophes qui se sont intéressés à ces fameux flocons de neige. Alors, j'ai envie de mentionner évidemment Kepler, 1571-1630. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui parle de la diversité de formes des flocons de neige, du fait qu'ils ont 6 branches, de la symétrie, dans un document qui est paru à l'époque, qui voulait dire, et je cite en page 21, et là on retrouve cette magie dont vous venez de pointer la touche, un cadeau de nouvelle année à propos de la neige à 6 branches. Comment offrir en cadeau de la science ? C'est assez fameux.
Ah oui, mais vous savez, je présente dans ce livre, je présente une vingtaine de personnages qui ne sont pas tous des scientifiques d'ailleurs, il y en a qui sont des artistes. Mais surtout, tous ces personnages, mon préféré, mon chouchou, celui que j'aime le plus, c'est sans aucun doute Kepler. Kepler est un très très grand scientifique, on le connaît tous pour ses travaux sur le mouvement des planètes, mais il a fait tellement de choses. Et sur cette histoire de flocons, je suis tellement admiratif de la façon dont il a procédé. D'abord sa capacité d'observer. Personne n'avait regardé des flocons auparavant avec des regards de scientifiques. Il se pose des questions, il essaye de comprendre. C'est absolument, absolument fabuleux. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est dans la méthode et dans l'esprit de Kepler, bien sûr, comme vous l'avez dit, on est en 1610, quelque chose comme ça, à cette époque-là, tous les savants dans le monde entier sont profondément religieux. On est une période un peu cruciale dans l'histoire des sciences, la science va commencer à naître, et on sort du Moyen-Âge, où il y a toute cette vision religieuse du monde, et Kepler essaye de voir dans la nature, et en particulier dans les flocons, l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il gouverne. Qu'est-ce que je peux trouver comme explication au phénomène des flocons ? Et par exemple, lorsqu'il écrit sur les flocons, il écrit des choses magnifiques. Il pose la question, est-ce que les flocons sont vivants ? Est-ce qu'ils n'auraient pas une âme ? Ce qui perturbe beaucoup, c'est qu'il voit que les flocons sont divers, qu'il n'y en a pas d'identiques. Mais il constate que même s'il y en a une infinité de flocons possibles, il n'empêche que chacun d'entre eux a 6 branches et que ces 6 branches sont identiques. Quand le flocon va croître, chacune des 6 branches va croître de la même manière. Alors du coup, Kepler pose la question, mais comment c'est possible ? Est-ce que ces branches communiquent entre elles ? Est-ce qu'il y a une façon de communiquer entre les branches ? Est-ce que ces flocons auraient une âme ? C'est des questions merveilleuses. Bien entendu, on ne pense plus à la science comme ça aujourd'hui. Mais quand même, l'apparition de symétrie dans des phénomènes en croissance est une question moderne, actuelle, en physique d'aujourd'hui.
Un formidable précurseur, un immense chercheur d'une curiosité incroyable, comme vous le soulignez. Et puis alors, parmi ces figures, on chemine avec vous. Vraiment, vous prenez le lecteur par la main et j'apprécie énormément cette manière didactique et pleine d'empathie et aussi d'humilité face à la science, parce que vous offrez un opus qui est lisible par tout le monde. Ça peut être par les parents pour les enfants, comme par les adolescents, comme par les adultes. D'ailleurs, vous avez des touches d'ironie, il y a certains passages qui sont un peu plus ardus, un peu plus mathématiques. Vous dites, c'est pas grave, si vous n'avez pas envie de lire ce chapitre, vous pouvez prendre aussi d'autres passages du livre pour vous faire plaisir. Et j'ai envie de relever, alors, quand les chercheurs, finalement, sur lesquels vous appuyez, vont, avec le temps, pouvoir expliquer, par exemple, le phénomène de la glace, on arrivera à ce personnage absolument curieux, ce japonais, Ukishiro Nakaya, qui va essayer de faire une machine à flocons artificiels. C'est complètement saugrenu. Par ailleurs, anecdotiquement parlant, il met même un poil de lapin dans la machine. Alors là, c'est à mourir de rire.
Oui. C'est dans ma brochette de personnages que je présente, c'est vraiment le physicien. C'est le plus lointain de moi, en quelque sorte. Moi, je suis un mathématicien abstrait, mais lui, c'est quelqu'un qui veut faire des choses concrètes. Alors, lui, il va pas écrire des équations. Il veut fabriquer des flocons. Et ce qui l'intéresse profondément, c'est d'essayer de comprendre comment la forme et la géométrie, l'image d'un flocon, comment elle dépend des conditions de fabrication, de la température, de la pression, de l'humidité. Donc il invente une machine qui n'est pas très compliquée, qui permet de fabriquer des flocons et on peut régler sur des boutons. On peut régler la quantité d'humidité, on peut régler la pression, on peut régler la température, et regarde à quoi ressemble le flocon en fonction de ses conditions atmosphériques. Et il a vite pris conscience que pour qu'un flocon puisse croître, qu'il puisse naître, il fallait un point de départ. Alors dans les nuages, le point de départ, c'est une petite poussière. Et lui, il a trouvé que pour faire le point de départ, il fallait un poil de lapin. Et ensuite, il a passé des années, à fabriquer des flocons en fonction de conditions différentes. Il a écrit des tableaux, etc. Et puis, il a écrit une jolie phrase c'est presque un, comment ça s'appelle ces petits poèmes japonais en
les haïkus, les haïkus.
Voilà, voilà, c'est presque ça. Il explique que le flocon, c'est comme une lettre que nous envoient les nuages. Parce que quand on reçoit un flocon, si on regarde le flocon, on peut deviner quelles étaient les conditions atmosphériques, température, humidité, pression, dans le nuage qu'il a fabriqué.
C'est donc absolument c'est magique.
Ils nous envoyaient une petite lettre avec leur adresse sur l'enveloppe.
C'est magique, c'est une métaphore merveilleuse. Et alors après, il y a des passages, comme je le disais tout à l'heure, qui sont peut-être un peu plus ardus, qui sont évidemment pas obligatoires au lectorat, mais qui sont, j'ai envie de le soulever, très intéressants aussi. C'est que finalement, les mathématiques reviennent par un autre angle avec la physique pour essayer de comprendre la variété et la croissance de ces fameuses branches de chaque flocon de neige. Alors on a Clifford Reiter et David Griffith, qui sont mathématiciens, qui vont essayer de comprendre le processus de croissance. Et alors on arrive au facettage, aux branches, et commence la variété en même temps se duplique. Il y a quelque chose de très curieux, parce qu'il y a de la variété et de la duplication en même temps.
Voilà, c'est fascinant. Alors, il faut bien comprendre que, et je trouve que c'est un aspect intéressant de comprendre la différence entre un mathématicien et un physicien. Vous savez, les mathématiques et la physique jouent un peu au chat et à la souris depuis des siècles.
Oui, exactement.
Et c'est toujours un petit peu difficile de savoir qui est quoi. Mais je trouve sur cet exemple, c'est assez intéressant, parce que si on veut comprendre la physique de la croissance d'un petit cristal de glace dans un nuage qui va croître, la question est tellement complexe, il y a tellement de questions thermodynamiques vraiment difficiles qu'on ne peut pas, on peut pas tout comprendre. Et c'est à ce moment-là que le mathématicien arrive et qu'il essaye de dire « Bon, je vais essayer de fabriquer un tout petit modèle, mais probablement simpliste, probablement caricatural, probablement, peut-être qu'il n'a rien à voir avec la réalité. Mais je vais voir si ce petit modèle que je peux tracer sur ma feuille de papier ou sur mon écran d'ordinateur, je vais voir s'il fabrique des flocons qui sont analogues à ce qu'on voit dans la nature. » Et c'est ce qu'on fait, les mathématiciens que vous venez de citer. Ils ont fait des modèles qui sont, ma foi, très simples, et les modèles que je décris dans mon livre, presque tout un chacun qui s'est un peu bricolé sur un ordinateur peut le mettre en application, et ça fabrique sur votre écran d'ordinateur des flocons qui sont tellement beaux qu'on dirait qu'ils sont vrais. Et d'ailleurs, il y a ce jeu de mots de ces mathématiciens, ils n'appellent pas ça des snowflakes, mais des snowfakes. Parce que ce sont des faux flocons qui sont totalement virtuels, fabriqués par un modèle. Et la similitude entre le snowflake et le vrai flocon semble indiquer que peut-être on est sur la bonne voie et que le modèle rencontre un peu de la réalité. Donc il y a ce petit jeu de ping-pong entre le mathématicien et le physicien. Le mathématicien qui fait des modèles abstraits qui peut-être n'ont rien à voir avec la réalité, mais qui de temps en temps passe un petit coup de téléphone à son collègue physicien pour voir si ça ressemble un petit peu à ce qu'il a vu lui dans ses expériences. Et puis réciproquement, les physiciens envoient des informations aux mathématiciens. Donc j'ai trouvé que c'était aussi une bonne occasion peut-être pour expliquer à mon lecteur la symbiose entre les maths et la physique.
Effectivement, je pense qu'on va de plus en plus d'ailleurs, d'un point de vue académique, vers de l'inter et du pluridisciplinaire, c'est-à-dire dans la recherche dure à une communication. Alors que ça soit physique et mathématique, mais on peut aller plus loin. Il y a la philosophie, bien sûr, puisque Descartes est mentionné, mais il y a aussi l'art. Comment l'art peut exprimer quelque chose de très complexe au niveau de la science. Il peut-être être une forme de passerelle entre les disciplines des sciences dures. Vous avez à la fin de votre ouvrage mentionné Kenneth Liebrecht, qui lui-même est physicien, mais est aussi artiste. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Je pense que l'art vient compléter ou exprimer des choses qui sont ardues à comprendre pour le tout public et qui peuvent peut-être métaphoriser en quelque sorte le flocon de neige.
Ben, vous avez raison, et peut-être qu'on peut revenir au début de notre conversation, quand les enfants faisaient « Ah, oh !» Voilà, c'est aussi une manière de s'intéresser à la science. Et si vous demandez à beaucoup de mathématiciens, à moi par exemple, pourquoi je m'intéresse aux maths, c'est sans aucun doute pour des raisons esthétiques. Hein. Donc moi, c'est certainement pas parce que les maths servent à construire des ponts ou à faire des choses utiles dans la vie économique, ce qui est vrai. Hein, mais c'est sans aucun doute parce que c'est beau. Hein. Le beau, le vrai et l'utile, disait, je ne sais plus si c'était Aristote ou Socrate, je ne sais plus. Mais c'est cette combinaison entre plein d'aspects qui me satisfait. Et d'ailleurs, les gens qu'on rencontre dans mon livre sont vraiment différents. Hein. Il y a des historiens, il y a des philosophes, il y a des photographes, il y a des physiciens, il y a des mathématiciens, il y a même des prêtres, il y a même un chasseur de baleines. Vous voyez, donc c'est des gens très très différents.
Très différents qui partagent la même fascination du flocon de neige. Et alors la beauté, ce sera peut-être le point d'orgue de notre entretien, si vous le voulez bien, Étienne Gis, c'est que votre livre est beau et j'aimerais le souligner. Il ne s'agit pas seulement d'un document extrêmement documenté et scientifique, une recherche qui est d'ailleurs en cours, en processus, on peut le dire, l'affaire continue en quelque sorte, mais il y a des illustrations qui rendent l'ouvrage particulièrement beau. C'est un livre aussi esthétique, les illustrations de ces flocons de neige à travers le temps, les dessins, les représentations culturelles du flocon de neige, ainsi que les portraits de tous ces personnages, c'est absolument magnifique. Donc c'est un cadeau qui peut-être rend hommage quelque part à Kepler, à offrir comme un message sur le flocon de neige, dans le contenu, mais aussi dans la forme.
Eh bien, écoutez, nous sommes au téléphone, donc on ne se voit pas, mais vous me faites rougir.
Non, mais j'ai vraiment envie que les gens découvrent cet univers de cette manière tellement originale. Vous donnez envie aux gens de faire de la science et de s'intéresser à la nature, tout simplement. Parce que le flocon de neige, c'est purement naturel.
Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, ce qui m'épate un peu avec les gens que je rencontre ces temps-ci à propos de flocons de neige, c'est que finalement, très peu de gens ont regardé un flocon de neige. Parce que il faut sortir dans la rue, il faut regarder de près, il faut une loupe, il faut être précautionneux. Par exemple, l'un des photographes dont je parle dans mon livre, M. Bentley, qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de magnifiques photos de flocons pendant toute sa vie, expliquait que pour avoir un beau flocon, il faut bien en chercher 1000 environ avant d'en avoir un qui est beau. Donc il faut les chercher. C'est un peu comme quand on se promène sur une plage et qu'on ramasse des coquillages. Souvent, la plupart des coquillages, bon, ils ne sont pas beaux, on n'a pas envie de les garder, mais de temps en temps, on en voit un qui est très très beau. Et c'est celui-là qu'on garde pour ramener à la maison. Et en fait, c'est un peu la même chose. Les flocons de neige, il faut sortir quand il neige, avec une loupe dans la poche, il faut regarder et il faut être patient pour avoir un qui est plus beau que les autres.
C'est peut-être aussi un message de méditation et d'humilité, de la patience pour arriver à la magie et à la beauté. Étienne Gis, avant qu'on se sépare, est-ce que vous êtes en train de rédiger quelque chose d'autre sur un autre sujet aussi beau que le flocon de neige ?
Alors, je ne sais pas si c'est aussi beau et je ne sais pas si ça vous plaira, mais je viens de terminer un petit livre sur le ballon de football.
Tiens donc, c'est original. Le point commun, c'est que c'est rond, apparemment.
Non, mais vous savez, en fait, il y a des points communs. Un ballon de football classique, comme vous le savez, il y a des pièces en cuir qui sont pentagonales et d'autres qui sont hexagonales. Et peut-être que vous ne regardez pas suffisamment les ballons de football pour vous rendre compte que la symétrie est omniprésente dans le ballon de football.
Comme quoi, plus personne ne le regardera de la même manière une fois que nous vous aurons lu.
Bien sûr, très bien.
Je vous remercie beaucoup pour le partage autour de la petite histoire des flocons de neige, édition Odile Jacob 2021, Étienne Gis, chercheur, mathématicien au CNRS, mais aussi formidable partageur de science. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Litteractif, pour un voyage plus qu'extraordinaire, dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.